On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça, grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie, sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! Ce n'est pas parce qu'un bébé ne parle pas encore qu'il n'a rien à dire. Voilà le constat sur lequel repose la philosophie de vie de ma prochaine invitée. Un bébé n'aspire qu'à s'exprimer. Et d'ailleurs, il n'attend pas que les mots jaillissent de sa bouche pour nous interpeller. Il utilise ce qu'il a à sa disposition ici et maintenant, à savoir son corps. Dès les premiers mois de sa vie, le bébé nous livre ardemment ses besoins, ses émotions, ses envies par des gestes, des mouvements, des mimiques, des crises et des pleurs. Et puis, sa motricité s'affine pour lui permettre d'être encore plus précis. Pointer du doigt, faire au revoir ou bravo de la main, mimer, tout est gestuel en lui. Voilà pourquoi signer avec un tout petit semble aussi naturel que logique. Bien avant le phénomène de mode des bébés signeurs, Isabelle Cotenceau, professionnelle de la petite enfance, étudie cet outil de très près. Elle y voit un moyen puissant d'arrêter de sous-estimer l'enfant, de lui accorder une vraie place dans l'échange, de soutenir sa construction et de lui offrir la possibilité de partager ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qui est important pour lui. Isabelle s'engage alors pour démocratiser le geste. Le geste comme un outil pour inclure vraiment nos petits dans nos vies dès leur arrivée parmi nous. Le geste comme un tremplin vers la parole. Le geste comme matière première pour nourrir notre relation à eux dès le début de la vie. Pas étonnant qu'elle se soit faite adopter par la communauté sourde en agissant ainsi. Alors vous, installez-vous bien confortablement, je vous propose un épisode éminemment ludique. Je vous emmène à la découverte de ce langage sensationnel qu'est le signe associé à la parole. Et vous allez vite comprendre pourquoi, comment et à partir de quand vous y initiez et quel en est l'intérêt, ce qu'il favorise pour le petit enfant et la famille au complet, comment l'intégrer gaiement dans votre quotidien sans en faire un poids pour autant, et le cadeau inouï que vous vous apprêtez à offrir à votre tout petit, ou plutôt à vous tous, pour la vie. Bonjour Isabelle et merci d'avoir accepté cette invitation à mon micro et de vous livrer à cette interview inouïe. Je vais essayer de résumer les multiples casquettes qui vous résument. Vous êtes passionnée par le langage des signes, fondatrice du label Éveil et Signes, formatrice et conférencière en la matière, professionnelle de la petite enfance et maman. Est-ce que j'ai réussi à tout bien synthétiser ?
Presque. Il manque une dernière casquette. Je suis aussi autrice, donc j'écris des livres également.
Eh bien, excusez-moi pour cet oubli et merci d'avoir rectifié la réalité. Je vais pour commencer cette interview vous poser une question. J'aimerais savoir comment vous avez découvert ce langage des signes si particulier et pourquoi il vous a tant fasciné.
Alors déjà, merci beaucoup Maria pour cette invitation à répondre à vos questions. J'en suis vraiment enchantée. J'ai envie juste de rectifier. On va vraiment pas parler de langage des signes parce que le langage des signes c'est extrêmement péjoratif. Et en fait, il existe une vraie langue qui s'appelle la langue des signes française. Et c'est pas du tout en plus ce qu'on va faire avec les bébés entendants. C'est-à-dire que il y a à la fois la langue des signes, qui est une vraie langue qui est utilisée par toute une communauté comme moyen de communication de tous les jours. Hein. C'est un réel besoin pour eux d'avoir cette langue, comme nous on a le français. Et puis il y a le français qui est mis en lumière avec quelques signes. Et ça, ça s'appellerait plutôt les signes associés à la parole. C'est un outil qu'on va utiliser avec les bébés entendants.
Très intéressant.
Oui, disons qu'on va dire que c'est... Oui, il y a un élément en commun, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer des gestes, on va utiliser des vrais signes de la langue des signes française. Mais c'est tout ce qu'il y a en commun. La langue des signes française a sa propre syntaxe, sa propre grammaire et ses spécificités qui ne sont pas du tout utilisées avec les bébés entendants.
On sent bien, en effet, la nuance et la différence. Alors du coup, je maintiens tout de même ma question. J'aimerais savoir comment vous avez découvert cet outil et pourquoi il vous a tant passionné.
En fait, je l'ai découvert il y a très longtemps. J'avais 15 ans à l'époque et j'ai eu la chance de partir une année aux États-Unis en tant que jeune fille au pair. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un outil qui est utilisé déjà depuis les années 80.
D'accord.
Donc, moi, j'arrive à peu près en 92-93, j'arrive là-bas aux États-Unis, dans une famille qui utilise cet outil au quotidien avec un petit bébé qui a 13 mois. Et vraiment, je suis fascinée par son expressivité, sa fluidité à communiquer, son aisance à venir vers l'adulte ou même ben moi qui étais finalement une étrangère pour lui, venir me voir et communiquer à l'aide de ses signes alors qu'il ne parlait absolument pas. Et on a pu en fait créer tous les deux un lien fort parce que mon anglais, il faut le dire, n'était pas au top à l'époque. Et à la fois, ben lui, il n'avait pas encore la parole non plus. Donc, grâce aux signes, en fait, on se comprenait très, très bien et on a développé une grande complicité tous les deux pendant toute l'année où je me suis occupée de lui. Ça a été mon coup de cœur, en fait, pour un outil qui facilite le lien, qui permet aussi à l'enfant d'avoir une vraie place dans l'échange.
C'est fabuleux, en tout cas, expliqué de cette manière-là. J'aimerais juste rebondir sur un aspect, justement, que vous venez de souligner. On sent qu'il y a un vrai intérêt pour la question de l'utilisation des signes associés à la parole aux États-Unis. Est-ce que vous savez pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là-bas et qui crée, justement, cet engouement autour de cet outil ?
En fait, c'est né d'un interprète en langue des signes américaine, donc Joseph Garcia, il a repéré que chez ses amis sourds, les bébés ont un comportement complètement différent par rapport à ses amis entendants, où il voit que les bébés sont un petit peu plus en galère, font des petites crises, sont beaucoup en phase d'opposition vers 18 mois, 2 ans, parce que justement, le langage n'est pas encore là, le langage oral. Et il remarque que chez ses amis sourds, ça se passe pas du tout de la même manière parce que les parents étant sourds-signants, la langue maternelle n'est pas l'oral, mais bien la langue des signes. Et il remarque que ces bébés se saisissent de la langue des signes très tôt, c'est-à-dire vers 6-8 mois, ils sont déjà capables d'exprimer leurs besoins à leurs parents. Et ben, le parent ajuste sa réponse. Ça veut dire que ce sont des bébés qui sont très vite compris et qui gagnent aussi rapidement en autonomie. Donc, il s'est dit, mais en fait, ça pourrait être exporté. On pourrait prendre quelques signes de la langue des signes et les proposer à tous les bébés, même si la langue maternelle n'est pas la langue des signes au départ. Mais en gardant l'oral et en ajoutant quelques signes, ça pourrait faciliter la vie des petits bébés. Et en fait, il a créé cet outil. Et il y a de ça déjà 40 ans, hein, c'était le début des années 80. Super idée qu'a eu Monsieur Garcia, c'est le papa du bébé signe, on va dire.
Merci de nous livrer en tout cas cette donnée historique. J'aimerais justement peut-être pour nous résumer revenir en France.
Oui.
Si cet outil gagne largement du terrain, il suffit juste de voir les rayons pléthoriques de la FNAC ou des librairies qui regorgent de vos livres ou d'autres auteurs sur le sujet. Ce sujet reste, quoi qu'il en soit, très largement connoté handicap et associé justement, comme vous le disiez, aux personnes malentendantes. J'aimerais savoir justement quel est l'intérêt selon vous d'utiliser cet outil, ces signes associés à la parole, aussi avec des bébés qui n'ont aucun souci d'ouïe.
Alors, je dirais que oui, il y a la langue des signes qui est destinée à la communauté sourde ou à la communauté signante, hein, parce qu'il y a aussi des entendants qui utilisent la langue des signes au quotidien. vraiment, la langue des signes est spécifique et particulière. Elle est une vraie langue. Et ici, quand on parle de signes associés à la parole, on se penche sur la qualité de notre verbalisation. On va dire que ce qui est le plus important, c'est pas forcément les signes. Ce qui est le plus important, c'est toute la posture et la verbalisation. On va vraiment faire attention à se poser déjà, à prendre le temps d'aller vers l'enfant, de se mettre à sa hauteur. C'est-à-dire que vraiment, la posture physique est extrêmement importante dans la communication. Et nous, entendants, on a cette tendance un peu à négliger cette posture. Là où la communauté sourde-signante est très, je dirais, très forte dans ce domaine, parce que on ne peut pas signer en étant de dos et il faut vraiment être toujours en face à face. Oui. Donc, on va aussi, nous, utiliser dans cet outil cette posture. Et je dois dire que j'ai vraiment du mal à saisir qu'on puisse lier, en fait. Alors déjà, j'ai du mal à saisir qu'on puisse penser que la surdité est un handicap. Bon, après, voilà, pour côtoyer les sourds au quotidien, je sais que ce n'est pas un handicap. C'est pour moi une spécificité ou une particularité.
Je comprends.
Mais on a beaucoup à apprendre des sourds. Je crois que c'est ça aussi, c'est... D'ailleurs, on dira plutôt sourd. Enfin, les sourds aiment être appelés sourds parce que voilà, c'est leur culture et leur identité.
D'accord.
Mais voilà, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des sourds. Mais réellement, quand on utilise l'outil, on est bien loin de communiquer en langue des signes. Et encore une fois, ce qui compte, c'est justement la verbalisation de qualité et surtout de créer un lien plutôt fort et très respectueux de l'enfant. Donc pour moi, c'est vraiment un outil d'accompagnement pour mettre l'enfant sur un pied d'égalité, puisqu'on lui propose un outil qui lui permet de communiquer et un outil qui est à sa portée. C'est pas quelque chose qu'il doit apprendre à faire, mais naturellement, il est dans la gestuelle. Donc on va enrichir de quelques signes pour lui donner un moyen de encore mieux communiquer avec nous. Donc on est bien loin du handicap, on est juste, au contraire, je dirais, mettre en valeur les compétences naturelles de l'enfant.
Ah, c'est très fort ce que vous dites, et du coup, ça m'inspire plein de questions. Je vais d'abord peut-être commencer par celle que j'aimerais désamorcer, au cas où justement certains de nos auditeurs se la poseraient tout bas. Vous, ça fait des décennies que vous formez finalement des parents et des professionnels de la petite enfance à cette pratique. On pourrait imaginer que cet outil s'ajoute à la charge mentale des parents, à tout ce qu'un parent a à gérer avec son petit bébé. Alors, j'aimerais savoir ce que vous, qui côtoyez ces bébés, ces parents, ces professionnels de la petite enfance, de près, qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Qu'est-ce que la mise en place de ce type de communication apporte ou change au quotidien pour le bébé et surtout pour les parents?
Alors, je pense que effectivement, ça pourrait devenir très vite une charge mentale supplémentaire à partir du moment où on met en place trop de signes. Ça veut dire que ça demande aux parents d'investir du temps, de l'énergie, de mobiliser sa mémoire pour apprendre une grande quantité de signes qui, au final, ne seront pas forcément utiles au bébé. Donc, je crois que ce qu'il faut réaliser, c'est que le bébé, il n'a pas besoin de beaucoup de signes. Une trentaine, une quarantaine, c'est largement suffisant. En particulier, je dirais, en milieu crèche ou chez les assistants maternels, c'est vraiment important de ne pas trop en mettre. L'idée, c'est que l'enfant, si on se met un petit peu à sa place, on se dit, OK, il a moins de 2 ans. Qu'est-ce qui est nécessaire pour lui d'exprimer ? Je dirais qu'en priorité, il a besoin d'exprimer ses besoins, donc besoin de dormir, de manger, d'être changé, peut-être d'aller dehors, de jouer, voilà. Et puis, ses émotions. Donc ben là, je suis triste, ou j'ai mal quelque part, ou je suis en colère pour quelque chose. Donc, pour moi, vraiment, c'est le vocabulaire de base à apprendre, et puis ensuite à utiliser au quotidien avec son bébé. Je pense que ça peut devenir une charge mentale à partir du moment où on commence à apprendre beaucoup, beaucoup de signes et qu'on essaye de les placer dans toutes les phrases. Et là, on est contre-productif, en fait. D'abord, on se fait du mal à soi-même parce qu'on s'ajoute un poids monumental dans le quotidien qui est déjà parfois un peu lourd, hein, il faut le dire. Mais en plus, c'est pas utile pour l'enfant. Donc, vraiment, je pense qu'il faut rester très léger par rapport à cet outil et prendre seulement ce qui est essentiel pour le bébé.
C'est très intéressant, en tout cas, comme approche. Merci, merci justement de nous l'avoir livré. À partir de quel âge est-ce que vous conseillez de commencer à utiliser ces signes associés à la parole avec un tout petit? Voilà, est-ce qu'il y a un âge en particulier qui est justement propice à initier ce type de communication?
Pour moi, à partir du moment où on parle au bébé dès la naissance, on peut commencer à utiliser des signes dès la naissance. Évidemment, au début, les premiers mois, on va pas en mettre beaucoup. En général, on va mettre, par exemple, changer la couche. À chaque fois qu'on va prendre le bébé dans les bras, on va juste avant le prévenir et lui dire, par exemple, Léa, je vais changer ta couche. Et ainsi, en fait, Léa va avoir l'habitude de voir le signe en même temps qu'elle entend le mot et en même temps que l'action suit. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on donne toujours au bébé l'opportunité de faire du lien entre un concept qui peut être un objet, par exemple le biberon, ou qui peut être une action, par exemple changer la couche, la phrase, le mot qui désigne cet objet ou cette action, et puis le signe. C'est par la récurrence que le bébé va enregistrer. Parce qu'évidemment, d'accord, on ne donne pas un cours de signe à un bébé. Le bébé, tout comme on lui apprend pas à parler en lui disant « Allez, ce matin, je vais te faire un cours de français, on va apprendre les pronoms et les conjugaisons. » Bien sûr que non, heureusement pour lui et pour nous. C'est parce qu'on parle que l'enfant enregistre les mots et les mémorise et puis les réinvestit quand il commence à parler. Eh bien, on va faire la même chose avec les signes. C'est-à-dire que si tous les jours, en m'adressant à Léa, je lui dis « Léa, je vais changer ta couche » et je lui fais ce signe de « changer », pour elle, c'est ancré en fait. C'est comme une image qui, à la place de pouvoir dire l'expression, elle va pouvoir elle-même réinvestir cette image et la produire avec ses mains quand elle sera prête. Mais les premiers mois, on va se focaliser surtout sur les besoins. Les besoins et puis donc les besoins, bah, dormir, prendre son bain, les petites routines du quotidien en fait. C'est quelque chose en plus, ça revient tous les jours, donc on a cette chance-là. À chaque fois qu'on s'adresse à bébé, on va utiliser ce signe clé. Plus le bébé le voit, plus il l'enregistre et plus il peut le réutiliser par lui-même.
D'accord. C'est des petits conseils tout simples qui nous permettent de savoir comment nous y prendre. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à ne surtout pas faire lorsque l'on décide justement d'intégrer cet outil dans notre quotidien de vie de famille?
Oui, je crois que l'idée déjà, c'est ne pas en faire une contrainte ni pour le parent ni pour le bébé. C'est-à-dire que il faut le faire dans le plaisir. De toute façon, la communication, ça doit être du plaisir. C'est quelque chose qu'on initie auprès de l'enfant. C'est-à-dire plus nous-mêmes on a du plaisir à lui parler, à utiliser quelques signes, et plus on lui donne cette envie aussi de prendre cette place dans la communication. Donc, je crois que c'est le premier petit conseil que je donnerais. Et puis, de ne pas noyer l'enfant de signes, même dans une même phrase, on va pas tout signer. On va juste utiliser un signe dans sa phrase et ça suffit, en fait. D'accord. Ça permet vraiment à l'enfant de faire ce lien entre l'objet, le mot et le signe. Donc, pas trop signer, prendre du plaisir et toujours se rappeler, en fait, de venir jusqu'à l'enfant pour communiquer avec lui. D'éviter de communiquer quand on fait autre chose. Hein, par exemple, je fais ma vaisselle et en même temps, je demande à l'enfant, quand il est un petit peu plus grand, de me raconter sa journée. Alors, oui, parfois, on le fait parce que on est pris un petit peu dans notre quotidien, mais l'enfant peut avoir ce ressenti qu'on n'est pas vraiment à son écoute. Donc, c'est important de prendre cette habitude, en fait, de se dire, allez, là, je pose tout ce que je suis en train de faire, je vais jusqu'à lui et on discute tous les deux. Je m'assois au sol, sur le tapis, parce qu'il est un tout petit bébé et qu'il lui-même est au sol, et on a un échange tous les deux. Et en fait, prendre cette habitude-là avec l'enfant, après, c'est quelque chose, je pense, qui reste et qui crée une relation, finalement, de confiance entre l'adulte et son enfant. Et j'espère, ça donnera aussi à l'enfant l'idée qu'il est écouté, entendu, respecté, et qui peut-être... quand il sera un petit peu plus grand, eh bien, ça, c'est quelque chose qui restera de l'ordre de l'habitude, de se confier, de poser là nos états d'âme ensemble.
C'est fou parce que quand on vous entend en parler, on a déjà l'impression que c'est simple à mettre en place. Et puis on sent la puissance, la portée de l'outil aussi bien pour le bébé, mais aussi pour la relation, comme vous le disiez. Moi, j'aurais aimé savoir, par curiosité, est-ce qu'il y a peut-être des signes que les bébés affectionnent tout particulièrement ? Et si oui, pourquoi ?
Alors, c'est drôle parce qu'hier, j'étais avec une famille qui utilise les signes associés à la parole et la petite fille de 21 mois, je l'ai beaucoup observée. Et en fait, j'ai bien vu que le signe qui était récurrent et vraiment qui lui donnait beaucoup de bonheur, c'était gâteau.
Donc, qu'est-ce qui nous est passé ?
Franchement, je peux comprendre parce que moi qui suis gourmande, oui. Effectivement, on se retrouvait bien toutes les deux sur le même sujet de prédilection. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas du tout la parole, cette petite, mais elle m'a regardée, elle m'a signé gâteau et j'ai re-signé la même chose. Et en fait, après, elle m'a donné son gâteau. Donc, je me suis dit, là, j'ai vraiment gagné des points.
Ah oui.
Et franchement, je vois bien que ce genre de signe, évidemment, ça plaît énormément. À partir du moment, en fait, où l'enfant peut, grâce au signe, obtenir ce dont il a besoin ou ce qui lui fait envie, ben forcément, il va l'affectionner. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que quand j'étais assistante maternelle, j'avais donc en accueil des enfants tous différents, hein, de familles différentes, avec des cultures parfois différentes. Et en fait, je trouve qu'avec le premier signe qui apparaît chez l'enfant, je trouve que ça donne quelques petites couleurs de la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que je me rappelle très bien que Lola, son premier signe, c'était gâteau. Parce que Lola, c'est voilà, très gourmande, elle aimait beaucoup les gâteaux, voilà. Et puis, par contre, j'avais une autre petite fille qui s'appelait Aliénor, et elle, c'était la musique. C'est le premier signe qui est venu chez elle, c'est la musique. Et vraiment, mais je trouve que ça, ouais, ça donne la coloration de la personnalité de l'enfant. Donc ça peut être ça, ça peut être musique, ça peut être gâteau, ça peut être encore aussi, encore qui revient assez souvent. Ça peut être l'eau aussi, donc vraiment lié à un besoin physiologique. Ça peut être aussi tétée. Pour les bébés allaités, c'est quasiment toujours le premier signe. Parce que la tétée, c'est aussi un moment, oui, où on se nourrit, mais aussi où on se câline, où on refait un peu fusion. Donc, tétée revient souvent aussi chez les bébés allaités.
C'est fascinant, vraiment, tout ce que finalement recèle et dévoile cet outil. Du coup, petite question pratique, combien de temps est-ce que nécessite la mise en place, finalement, de cette communication gestuelle ?
Alors, je vais dire que chez les parents, en fait, pour les parents, on propose un format d'atelier pour leur transmettre les signes de manière ludique et où ils vont pouvoir aussi être corrigés, aidés, guidés pour bien mettre en place les signes. Donc, quand on propose des ateliers, donc j'ai beaucoup d'animateurs en France qui proposent ces petits ateliers éveil et signes. Et en fait, ça se passe sur 4 séances. 4 séances de 45 minutes.
D'accord.
Où ils vont découvrir tout le vocabulaire nécessaire à la maison, mais de manière très ludique. Ils viennent déjà avec leur bébé en atelier parce qu'ils vont aussi découvrir des comptines, ils vont découvrir des histoires, des petits jeux qu'ils peuvent aussi reproduire à la maison avec leur bébé pour créer un lien et de la complicité, en fait. Hein. Et puis, l'occasion aussi, évidemment, d'apprendre les signes et d'être corrigé, accompagné par l'animateur. Ça, c'est vraiment chouette pour les parents.
Ça a l'air.
Et puis, pour les professionnels de la petite enfance, en particulier les crèches, les structures collectives, là, on propose une journée de formation. Une journée qui va vraiment, clé en main, leur donner l'outil. Ils savent comment, après, le mettre en place au quotidien et le rendre pérenne aussi dans le temps.
C'est très concret en tout cas et ça donne envie de participer à vos ateliers. Moi, j'aimerais maintenant glisser vers une autre question qui a vraiment rapport au langage au sens un peu plus large. J'aimerais savoir si ça peut être une bonne idée d'associer aussi un plus grand frère ou une plus grande sœur à cette communication gestuelle, alors que eux pourraient justement déjà être en pleine acquisition du langage. Je vais même prolonger et élargir ma question. Est-ce que le fait de signer ne peut pas entrer en concurrence avec l'acquisition de la parole, ou en tout cas retarder le fait de se mettre à parler.
Pour moi, c'est absolument le contraire qui peut se produire. À partir du moment où on respecte, je vais dire, le mode d'emploi de l'outil. Comme tout outil, il a un mode d'emploi précis. Et si on est dans ce mode d'emploi, qu'on respecte bien les règles d'or, je dirais, de la mise en place de cet outil, au contraire, c'est plutôt facilitant pour la mise en place du langage oral. La raison, elle est simple, c'est que déjà, étant donné qu'on va toujours se mettre à la hauteur de l'enfant, ça veut dire que on va lui permettre à l'enfant d'avoir vraiment un visuel sur la bouche, sur l'ensemble du visage. Et ça, c'est déjà une des composantes qui permet à l'enfant d'acquérir le langage.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir accès à la bouche, bien comprendre comment on gonfle nos joues, comment on place notre langue. Et d'ailleurs, les bébés regardent beaucoup la bouche quand on leur parle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va faire des phrases courtes et on va ralentir le débit de parole.
D'accord.
Ça, c'est vraiment intéressant pour la mise en place du langage oral parce que ça laisse le temps à l'enfant justement de bien capter les différentes syllabes, de bien retenir les mots qu'on va prononcer de manière vraiment articulée, sans exagérer non plus, hein, on n'est pas dans... Voilà, on parle de manière fluide, mais c'est vrai qu'on parle moins vite quand on signe. On va aussi veiller à toujours utiliser les mots justes, c'est-à-dire qu'on va pas dire le miaou pour le chat, on va appeler un chat, on va appeler une voiture et non pas vroom vroom. Ça, c'est extrêmement important aussi pour le développement du langage. Et en fait, le bébé va vraiment toujours entendre le mot en même temps qu'il voit le signe. Donc pour lui, ça fait corps, en fait.
D'accord.
Il, même si de lui-même, il va au début pas pouvoir forcément prononcer le mot, mais il arrive très souvent que l'enfant, en même temps qu'il produit le signe, commence à dire une petite syllabe du mot. Par exemple, souvent il signe encore et il dit corps de lui-même. C'est-à-dire que ça vient aussi rythmer les mots. D'ailleurs, souvent, le mouvement du signe correspond au nombre de syllabes comme le mot. Par exemple, doudou, on tape deux fois sur la bouche.
D'accord.
Et en fait, ce rythme, on voit que le bébé, il l'acquiert facilement. Donc, au contraire, on va dire que c'est plutôt facilitant, ça soutient le développement du langage. Ça lui permet aussi de mieux comprendre ce qui est peut-être plus abstrait. Ça veut dire qu'il acquiert aussi du vocabulaire. Et ce que j'aime bien aussi conseiller aux parents, c'est pour un même signe d'utiliser plusieurs mots qui veulent dire la même chose, hein, qui font référence au même concept. Par exemple, je leur donne cette idée de pour le livre. Donc le livre, on a nos deux mains qui sont jointes devant nous et puis on va les ouvrir comme ça avec les paumes qui sont vers le ciel. Hein. Donc c'est vraiment très visuel, hein, le livre. Eh bien l'idée, c'est de pas toujours utiliser le mot livre. De temps en temps, de dire un album, ou de dire un imagier, ou de dire un bouquin, un ouvrage. Voilà, plus on étoffe en fait le vocabulaire, mais en le liant toujours à la même image au niveau du signe, eh bien, plus on permet à l'enfant de comprendre ces mots-là et de les enregistrer, ça veut dire qu'il acquiert ce vocabulaire, mais non seulement il l'acquiert, mais il le comprend. Ça veut dire qu'il est capable dans son cerveau de bien les classifier déjà. Et donc, d'acquérir un vocabulaire plus large.
C'est d'une richesse folle, vraiment, et insoupçonnée. Moi, du coup, en vous écoutant parler, je me demandais si tout ceci marchait ou pourrait marcher au sein des familles bilingues ou multilingues.
Vraiment, c'est un outil dans une famille bilingue qui a tout son sens. On va pouvoir, en utilisant, par contre, les signes d'une seule langue des signes.
D'accord.
Ça, c'est très important. En général, je conseille aux parents d'utiliser la langue des signes du pays dans lequel ils vivent.
D'accord.
Il y a des mamans, par exemple, françaises qui sont expatriées aux États-Unis et elles m'ont contactée pour me demander des petits conseils. Et je leur ai expliqué que c'est mieux qu'elles utilisent sur les mots en français et sur les mots en anglais, en américain, d'utiliser les signes de la langue des signes américaine. Parce que si le bébé est accueilli après en crèche ou chez une assistante maternelle, eh bien, il va retrouver les mêmes signes. Donc, c'est plus intéressant pour lui. En France, eh bien, on va utiliser les signes de la langue des signes française. Donc, par exemple, sur la phrase « You're going to take a bath », eh bien, on va signer sur le mot « bath », qui veut dire « bain », on va signer le « bain », le signe du « bain » en français, en langue des signes française. Et puis, on fera la même chose quand on parle, quand on lui dit la même phrase en français, on mettra le même signe. Et vraiment, ce signe va servir de pont entre les deux mots. Donc, les signes vont servir de pont entre les deux langues. Et c'est ça qui est intéressant, on met une même image, une image commune.
Ah, mais oui, et comme vous dites, ça peut même créer finalement des ponts entre les parents eux-mêmes qui parfois ne parlent pas la même langue. Donc,
clairement.
En effet, on voit tout l'intérêt de cet outil, même pour les grands, j'allais dire.
Oui, et je dirais même, j'accompagne très souvent des crèches bilingues. Par exemple, je forme régulièrement une crèche bilingue allemand-français à Nantes. Et c'est vrai qu'on a remarqué que depuis qu'on a mis en place les signes dans cette crèche, les enfants comprennent mieux l'allemand. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent dans la crèche et n'ont jamais entendu l'allemand. Donc c'est une langue qui est vraiment très, très différente du français. Ils étaient vraiment perdus pour certains, même des enfants un petit peu plus grands, 18 mois, 2 ans, perdus complètement dans les consignes en allemand, avec des professionnels qui parfois ne parlaient qu'allemand avec eux. Et en fait, de mettre les signes, ça a beaucoup rassuré, ça a beaucoup permis aux enfants de comprendre et d'acquérir les mots de l'autre langue qu'ils ne connaissaient pas du tout au départ.
C'est génial. J'aimerais vous poser une autre question. Je sais que vous avez traduit des livres, mais aussi des comptines en signes associés à la parole. Qu'est-ce que le fait de signer une comptine apporte à un bébé, Isabelle ?
Alors, je dirais que déjà, chanter à un bébé, c'est extrêmement important. Il est très sensible à ça. C'est quelque chose qui l'apaise, qui l'anime, qui lui fait plaisir vraiment profondément. Donc, chanter, c'est important. Qu'on chante bien ou qu'on chante un peu faux, le bébé lui fait pas la différence. Il a du plaisir à nous entendre chanter. Donc, c'est quelque chose qui est important. Mais ajouter des signes en plus, c'est aussi lui donner de la compréhension. Parfois, on comprend pas toujours les paroles, c'est pas facile. Mais quand on vient mettre en lumière quelques mots importants avec des signes, il dit « Ah, voilà, oh, c'est un papillon, d'accord. » Et puis, il voit les mains s'agiter, il voit le papillon voler. Ça y est, lui, il a l'image. Donc, c'est vraiment lui permettre de mieux comprendre. Peut-être aussi, parfois, les enfants nous suivent. Hein, quand on fait petit escargot, on a tous les petits doigts qui s'agitent. On a l'impression d'avoir plein d'escargots dans la pièce. C'est fantastique, je trouve, de leur transmettre ce vocabulaire aussi et d'animer, en fait, de donner vie à ces petits personnages qu'on retrouve dans les comptines. Je crois que les enfants, ils ont tellement un imaginaire développé que ça leur parle beaucoup, en fait. Et puis, quand on pense, après, quand on croise un escargot dans un parc, vous n'imaginez même pas la joie de l'enfant qui reconnaît l'escargot, qui refait le signe de l'escargot sans même qu'on lui dise. Et là, on se dit, mais c'est gagné, en fait. Cette petite comptine, eh bien, lui a permis de découvrir ce petit signe-là. Et il est capable, en plus, de le réutiliser dans un autre contexte. C'est extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire, en effet. On vit encore, quoi qu'il en soit, en plein Covid. Alors certes, le port du masque a été largement allégé, mais j'aimerais savoir si ce virus, si cette pandémie a changé quelque chose au fait de se mettre à signer avec son bébé, et même peut-être dans votre manière de former à ce langage.
Alors, je dirais que ça peut-être un petit peu renforcer l'idée que on ne peut pas se baser uniquement sur la communication orale avec les enfants et que l'oral plus les signes, c'était un vrai plus pour que l'enfant comprenne bien. Ça a été vraiment problématique dans les structures petite enfance où le port du masque pour les adultes était obligatoire. Vraiment, ça a été un frein pour la relation parfois compliquée avec les enfants en fait qui ne savent même pas qui parle. On voyait la tête des enfants bouger dans tous les sens en se disant « mais qui vient de dire quelque chose ?» en essayant de capter quel adulte avait parlé. Et en fait, vraiment, ça, je pense que ça a permis aussi aux professionnels de réaliser que l'importance de se mettre à la hauteur et d'être face à l'enfant. Déjà, pour qu'il voit qui parle. Et puis ensuite, puisqu'il n'avait pas accès à la bouche, d'être beaucoup plus expressif encore. Parce que les signes aussi invitent à être dans l'expressivité importante au niveau du visage. Donc, on pose une question, on lève nos sourcils. On lui dit « Oh, mais tu as l'air d'être en colère. » On fronce nos sourcils. On lui dit « Oh, t'as vu ? Regarde, il est content, il sourit. » Eh bien, on doit sourire en même temps, même si on a le masque. Parce qu'on a les petites rides à côté des yeux qui montrent qu'on sourit. Et parce que notre voix aussi se modifie quand on sourit. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui fait que oui, le port du masque, c'est vraiment très problématique pour le développement du langage, mais qu'on peut compenser en étant expressif, et ça fait partie aussi du signe, et puis en utilisant en plus nos mains qui vont, je dirais, encore plus ancrer ce qu'on est en train de dire et qui permettent donc à l'enfant de mieux comprendre encore.
À vous écouter en parler, j'ai l'impression en fait que finalement cet outil rend la communication presque théâtrale, j'allais dire. Et c'est vraiment beau à entendre, et pour avoir assisté à ce genre de scène, enfin je trouve ça en effet extraordinaire à observer. Depuis le début de notre échange, Isabelle, vous insistez sur l'importance de nous mettre à la hauteur du bébé.
Oui.
J'aimerais qu'on se résume et que vous nous expliquiez ce que ça signifie très concrètement et ce que ça implique.
Je pense que on néglige parfois un petit peu cet aspect, mais en fait l'enfant est un être à part entière, et pour le lui montrer, il est important de communiquer avec lui comme on communiquerait avec d'autres adultes aussi, hein, et de manière extrêmement respectueuse. Donc communiquer à distance ou de notre hauteur, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que ça lui demande à lui d'avoir le cou complètement cassé pour nous regarder. Et ça ne l'invite pas à participer, parce que c'est nous, de notre hauteur et de notre supériorité, qui nous adressons à lui. Et je trouve que c'est un petit peu choquant. Alors, bien sûr, ça m'est arrivé, ça m'arrivera sûrement d'autres fois, parce que parfois on est pressé, parce que parfois c'est la situation qui le demande. Mais je pense que quand on s'adresse à l'enfant, la première des choses, c'est de se dire « je me mets à ta portée, je me mets à ta hauteur ». Parce que ça me permet aussi à moi, adulte, de bien t'observer. C'est-à-dire que le bébé ne parlant pas, il a d'autres moyens de communiquer qui sont non-verbales. Il est vraiment très fort. C'est le roi de la communication non-verbale. Mais de notre hauteur, on ne le voit pas. Et il est important de se mettre à sa hauteur pour justement percevoir les expressions de son visage ou sa manière de bouger son corps ou sa gestuelle. Ou son regard, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il fuit du regard. Voilà, tout ça vont m'indiquer s'il est bien, s'il a un inconfort, ou s'il cherche mon aide peut-être. Mais ça, ça demande déjà de l'observer, d'être vraiment les yeux dans les yeux. Et puis, je me mets à sa place et je me dis, moi si quelqu'un vient et se met complètement à ma hauteur, ben, je sens qu'il est aussi prêt à m'écouter en fait. Ça veut dire que oui, je peux aussi m'exprimer, que la personne en face de moi a son avis, mais que moi j'ai peut-être un avis différent et je peux lui dire aussi, et qu'il est prêt à m'écouter. Donc c'est aussi donner ce sentiment à l'enfant qu'il est un être important, que son bien-être est important, que ce qu'il a à nous dire est extrêmement important pour lui, pour nous, et donc ben, se mettre à la hauteur, c'est déjà le premier pas vers ça, vers cette reconnaissance-là.
C'est très fort, et en fait, c'est comme si vous nous rappeliez que la communication était avant tout finalement un exercice, j'allais dire, physique et corporel. Chose qu'on a tendance en effet à je pense, oublier encore davantage dans notre société polluée par les écrans qui font justement écran entre nous.
Et oui, tout à fait. Je pense que ça a changé la donne, les écrans. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire aux parents, posez votre portable et mettez-vous à la hauteur de l'enfant et voilà, faites quelque chose avec lui ou parlez-lui un petit peu et regardez sa réaction, regardez-le, observez-le. En fait, être avec son portable à côté de son enfant, c'est pas être avec lui, c'est pas être dans la relation. Parfois, ça nous arrive, et moi aussi, hein, je suis la première à utiliser mon portable, mais je me rends bien compte que ça coupe la communication. Et il faut vraiment qu'on se rende compte que communiquer avec un bébé, ce besoin aussi que lui-même a de communiquer est aussi fort que d'être nourri, que d'être bercé, que d'être choyé, aimé, soigné. Je veux dire, c'est un élément pour prendre soin de l'autre, la communication qui est vitale. Et c'est quelquefois quelque chose qu'on néglige et c'est dommage.
Écoutez, en tout cas, le message est bien passé et merci de nous le livrer de manière aussi bienveillante et engagée à la fois. Vous êtes vous-même maman, Isabelle, et
oui.
J'aimerais justement questionner cette dimension-là de votre vie. Est-ce que le fait de devenir maman a changé quelque chose à votre pratique des signes associés à la parole ? Et si oui, quoi ?
Tout. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce que j'étais pas destinée à transmettre cet outil, hein. C'était pas du tout ce que j'avais prévu au départ, mais on sait bien que les enfants viennent chambouler nos vies. Et de là où j'étais professionnelle de la petite enfance. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, Raphaël, j'ai eu donc d'abord Manon, qui aujourd'hui a 18 ans, et avec qui la relation était plutôt facilité, je pense. Je me sentais plutôt à la hauteur. Et puis, j'ai eu un petit garçon, Raphaël, avec qui ça a été beaucoup plus compliqué. La relation se faisait difficilement.
D'accord.
Et c'était un bébé qui pleurait beaucoup. Et j'avoue, je me sentais souvent démunie. Et j'ai repensé, en fait, le jour où il a eu 13 mois, j'ai repensé à l'enfant que j'avais accompagné aux États-Unis. Et je me suis dit, mais comment je pouvais être plus proche de cet enfant-là qui m'était complètement inconnue, que mon propre enfant, en fait. Et là, ça m'a questionnée. Et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose que peut-être que je n'ai pas bien mis en place avec lui, peut-être que je l'écoute pas suffisamment, peut-être qu'en instaurant les signes, ça peut nous aider. Et en fait, c'est là que j'ai remis le pied dans cet outil.
Incroyable.
Je l'ai utilisé avec lui. Ça a fonctionné. Alors attention, c'est pas non plus un produit miracle. Ça, c'est vraiment très important de le dire. C'est qu'effectivement, j'ai changé ma posture. Je me suis mis à sa hauteur et j'ai pris du temps pour l'écouter, l'observer. Et finalement, les signes, oui, c'est important, mais j'ai bien compris que c'était surtout tout le reste qui était très important. Le temps que je lui accordais et la reconnaissance de l'individu qu'il était en train de devenir ou qu'il était déjà même. Et vraiment, ça a tout changé parce que après, je suis devenue professionnelle de la petite enfance. J'ai eu un troisième enfant avec qui j'ai signé tout de suite, Sarah, qui a d'ailleurs produit ses premiers signes dès l'âge de 6 mois.
Incroyable.
Donc, avec une communication, ouais, très, on va dire très riche entre nous. Et puis, après, je n'ai jamais cessé d'utiliser cet outil, en fait. Je suis devenue professionnelle de la petite enfance. J'ai travaillé aussi en crèche et j'ai utilisé cet outil. Et puis après, ça m'a semblé en fait important de le transmettre à d'autres parents qui peut-être aussi ont vécu la même chose que moi ou étaient en train de vivre ça en tout cas. Et puis d'autres professionnels, tout simplement pour nous rappeler que le bébé il est en pleine construction et qu'on peut vraiment bien l'accompagner avec cet outil.
On sent de toutes les manières que vous avez cet engagement verrouillé au corps et à l'âme et c'est vraiment fantastique à observer. Et merci en tout cas pour ce que vous nous livrez. Question peut-être un petit peu indiscrète, est-ce que vous aviez des signes préférés que vous partagiez avec vos enfants ?
Alors, des signes préférés, ça dépend des enfants en fait aussi. Hein. Alors avec Manon, j'ai pas signé puisqu'elle avait 3 ans et demi, 4 ans quand j'ai commencé avec son petit frère. Mais par contre, elle adorait les comptines. Alors ça, à 4 ans, elle s'en est saisie. J'ai fait plein de petits films à l'époque parce que j'avais trop envie de garder ça en mémoire. Elle signait très très bien en plus, mais elle parlait aussi très bien. Donc c'était pas un outil pour communiquer pour elle, mais vraiment plus pour s'amuser et puis quand même pour communiquer avec son frère. Donc oui, ils avaient leurs petits signes. Alors il y avait Doudou qui était très présent parce que Raphaël avait un doudou et il était très proche de son doudou. Donc ça, c'était notre petit signe un peu agréable entre nous. Mais aussi, bien sûr, les « je t'aime ». Pouvoir dire à son bébé « je t'aime » et puis avoir un premier « je t'aime » avec un signe, je crois que c'est Voilà, ça, c'est très émouvant pour un parent.
Ça doit être tellement bouleversant.
Ah oui. Cette petite main qui glisse là sur le buste et cet amour dans les yeux, c'est quelque chose de fort, vraiment très fort. Donc ça a été très fort. Et puis ce qui reste aujourd'hui quand même, alors que ma petite dernière, Sarah, elle a 12 ans, mais on se fait toujours « I love you », il y a un petit signe « I love you » qui se fait, qui est international. Et celui-là, on se le fait matin, soir, à tout moment où on se sépare.
Oh, ça me met la chair de poule. C'est vraiment magnifique, en tout cas. J'aimerais pour conclure, vous demander s'il y a eu peut-être une parole qui vous a fait du bien, qui vous a inspiré confiance en tant que parent et sur laquelle vous souhaiteriez nous laisser.
Alors moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être... assez simple. Alors, c'est pas une parole que j'ai entendu beaucoup, mais c'est en tout cas quelque chose que j'aurais aimé entendre en tant que maman. Mais j'ai envie toujours de dire aux parents, écoutez-vous et écoutez votre bébé. En fait, c'est avant de parler, parfois juste écouter, on perçoit plein de choses. Écouter, c'est aussi écouter avec ses oreilles, mais écouter avec ses yeux. D'ailleurs, en langue des signes, quand on communique avec des sourds et qu'on lui dit « je t'écoute », la main vient vers l'œil parce qu'on écoute avec nos yeux en langue des signes. Et j'aime bien cette idée qu'on peut écouter avec tous nos sens, c'est-à-dire notre sensibilité, notre intuition, nos yeux, notre oreille quand elle fonctionne. Et voilà, avec tous nos sens, on peut écouter l'autre. Et écouter, c'est déjà lui laisser de la place et le prendre en considération. Donc, avant d'entendre plein de conseils et d'écouter les conseils de tout le monde, je pense qu'il faut d'abord écouter son bébé et s'écouter soi-même. Voilà, et se faire confiance.
Merci, merci infiniment Isabelle pour votre temps, pour tout ce que vous nous avez livré et pour cette parenthèse enchantée tout en sensibilité. C'était vraiment un plaisir que de vous avoir à ce micro.
Et merci.
On vous dit à très bientôt au fil de vos pages et de nombreux livres que vous avez écrits.
Oui, j'en ai un prochain qui sort sur les émotions. C'était un thème que j'avais vraiment envie d'aborder depuis longtemps, mais je me sentais pas prête parce que il est venu aussi chambouler un petit peu l'enfant intérieur que j'ai été, ce que j'aurais aimé trouver en tant qu'enfant. Et je pense qu'il va vraiment plaire aux familles et il sort bientôt, là, dans quelques jours, je crois.
Alors, ce que je vous propose, c'est justement de lister l'ensemble de vos ouvrages à la fin, en commentaire de ce podcast, pour que tous nos auditeurs, justement, puissent les retrouver.
Avec plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup pour cette invitation à échanger.
C'était vraiment un pur plaisir pour moi et je vous dis à très bientôt Isabelle.
À très bientôt, merci beaucoup Maria.
Vous l'aurez compris, ce que l'on sème lorsque l'on signe avec son bébé est bien plus durable et édifiant que de simples gestes. C'est toute une posture, toute une considération, toute une relation saine, respectueuse et équilibrée que l'on instaure dès les débuts de la vie et cette empreinte, rien ni personne ne pourra jamais l'effacer. Confucius disait « Si l'homme a deux oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. » Et je crois que cet échange vient de nous le confirmer, plus que jamais. Alors j'espère qu'Isabelle vous aura donné envie de prendre le temps de vous mettre à hauteur d'enfant et de poser un autre regard sur ce petit être qui a tant à vous dire. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle parenthèse remplie d'inouïe. D'ici là, je vous souhaite de vous émerveiller de la vie.